C'est vrai, hein, malgré le froid, mais on est le 2 mars.
Ah,
il y a quelqu'un qui parle.
Yeah! C'est encourageant. Ah, on va avancer
c'est
encourageant. Aussi.
Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Je dirais qu'avec
les années, mon Coffee, corps, on dirait la noirceur.
On m'entend de plus en plus de misère avec. On m'entend parler.
Puis là, il y a des temps de l'année, on arrive au souper, puis il fait noir.
Tu peux-tu le...
On dirait mon corps est dans un mode...
L'enregistrement, il joue.
Ça, les journées rallongent, on dirait que... Ah! On reprend vie. Exactement. Donc, bienvenue. Et puis, frères et sœurs, bien... Vous avez le titre un peu de ce qu'on va découvrir ce matin. En fait, découvrons et célébrons la gloire de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez ça? Puis hein, ce point-là va culminer, bien sûr, plus tard avec le repas du Seigneur qui nous parle de la gloire de Jésus. Mais pour arriver là, bien, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 2. Donc, des versets qui vont nous parler de tout ça. Donc, Évangile de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 12. Alors, je vous en fais la lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples et ils n'y demeurèrent que peu de jours. » Donc, pour les lecteurs assidus de la parole de Dieu, bien, c'est des passages qu'on connaît bien. Et puis, mais ce matin, bien, on va revisiter ça parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Hein? Je ne sais pas si vous êtes oublieux comme moi, là. Moi, j'oublie. Ça fait que le Seigneur permet qu'on peut se rappeler et puis puiser dans cette source intarissable qu'est la parole de Dieu. Donc ici, bien, on se retrouve dans une histoire, en fait, où Jésus vient d'entamer son ministère public qui va le conduire, bien sûr, à la croix du calvaire, selon un programme divin qui a été décrété par Dieu avant la fondation même du monde. Ce n'est pas quelque chose que Jésus, là, il est arrivé là, puis hein, il dépendait des circonstances, puis il s'adaptait à ça. Non, il y avait un plan divin qui avait été établi avant la fondation du monde. Ça, c'est intéressant à considérer. Il savait ce qu'il faisait. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait avait un but en particulier, puis on va le voir. Donc, au moment de l'histoire, bien, si on regarde un petit peu juste avant, bien, on voit que Jésus avait été baptisé par Jean le Baptiste. Et puis, en lisant ça, bien, j'ai décidé d'un peu changer son nom, hein, parce que nous, on a changé notre nom. L'Église Baptiste, ici, c'est l'Église de? Donc, c'est Jean de? L'Espérance. Et on voit aussi là qu'il est avec 5 disciples qui l'accompagnent. C'est André, Pierre son frère, Philippe, Nathanaël. Puis là, ben, il y a un autre disciple qui, on ne sait pas c'est qui, mais on sait que c'est possiblement Jean qui écrit l'Évangile. Hein? Donc, il est à 5 personnes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander pour quelle raison l'apôtre Jean a-t-il écrit son Évangile? OK, Robert, afin qu'on croit. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On passe au vote. On peut-tu passer, hein? Parce que, oui, Robert, c'est en plein ça, gars. Un peu plus loin, c'est le fun, quand on lit quelque chose, puis il nous dit pourquoi ça a été écrit. Des fois, ce n'est pas nécessairement écrit. Faut, en le lisant, bien, on va voir un peu l'auteur vers quoi il nous amène. Mais Jean nous dit, à la fin, au chapitre 20, verset 30-31, où ce qu'il est dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Hein, il en a fait encore beaucoup, beaucoup d'autres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, hein, qu'il est le Messie, qu'il est loin, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez quoi? La vie en son nom. Donc, quand on lit l'Évangile de Jean, ben Jean, là, ce qu'il veut quand on la lit, c'est que si on ne croit pas en Jésus, bien, c'est son objectif. Donc, tout ce qui a été écrit, c'est l'objectif, c'est de nous amener à considérer la personne de Jésus. Dans pas juste seulement ce qu'il a fait, mais qui il est, lui, et qu'est-ce qu'il a accompli, bien sûr, et puis on va regarder ça. Donc, quand je lis ça un peu, bien, je me rends compte que Jésus, des fois, bien, hein, il a commencé par un miracle. C'est quelque chose, là, un miracle. Avez-vous déjà vu ça, un miracle? Hein, c'est sûr, quand on manque de vin, on aimerait ça que en avoir. Hein? On met de l'eau, puis non, quand même. J'exagère un petit peu. Mais hein, Jésus, on pourrait dire, il a commencé en sortant l'artillerie lourde. Je m'excuse, j'ai de la misère à dire. Artillerie lourde. Parfait. Il a commencé avec un miracle. C'est quelque chose. Il a commencé avec un miracle. Parce que l'être humain, bien, ça y prend cette artillerie lourde-là, des fois, pour changer. Mais malgré ça, on comprend que quand on lit l'Évangile de Jean aussi, on s'aperçoit rapidement que Jésus, bien, il a fait ça. Mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'on a fait avec Jésus? On ne croyait pas en lui. Hein, il disait, il parlait de lui, puis les gens ne croyaient pas en lui. Il a fait des œuvres aussi incroyables, les gens ne croyaient pas en lui. Malgré tout ça. Malgré tout ça. Vous savez, l'être humain peut croire à peu près n'importe quoi. Puis on s'en rend compte, hein? On a juste à écouter la télé, lire. L'être humain peut croire à n'importe quoi, mais croire en Dieu, quelle hérésie. Hein, sûrement, vous parlez à des gens, on peut parler de n'importe quoi, mais parler de Jésus, de Dieu, c'est comme une hérésie, là. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, croire encore dans ces choses-là aujourd'hui. On peut croire à la fée des étoiles, au Père Noël, à Bouddha. On peut croire que la Terre est plate et qu'Elvis vit encore. Puis combien d'autres choses encore que tu dis, hey, ça n'a pas de sens. Mais croire en Jésus, oh, c'est quelque chose. Et au verset 12 du chapitre 2 qu'on vient de lire, bien, on voit que Jean abonde dans ce même sens-là, dans ce qu'il a écrit au chapitre 20. Il dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire. » Et ses disciples, quoi? Crurent en lui. Crurent en lui. Donc, quel était l'objectif de changer l'eau en vin? Ben oui, oui, c'est vrai, hein, ça a servi à ça. Exact. Hein? L'objectif premier, d'une certaine façon, bien, c'était de manifester sa gloire, c'est-à-dire sa magnificence, son excellence, sa prééminence, sa dignité, sa majesté. Puis on pourrait rajouter d'autres termes à ça, là. C'était de manifester sa gloire. Pour quelle raison? Bien, pour que les gens croient qu'il est le Christ. Et lorsqu'on lit ces versets, ces premiers, aussi les premiers versets, hein, si on revient dans le chapitre 1, de l'évangile de Jean, bien, on voit que Jean, justement, nous présente Jésus comme, en partant comme étant Dieu lui-même. Ce n'est pas n'importe qui, là. Il nous présente Jésus comme Dieu, comme le Créateur, comme la vie, comme la lumière qui éclaire tout homme. Étant venu chez les siens, mais les siens ne l'ont malheureusement pas reçu. Puis, au verset 12, il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est l'objectif de Jésus, qu'on devienne ses enfants. Et il le fait en manifestant sa gloire à travers ce premier miracle. Et au verset 14, bien, du chapitre 1, bien, on a cet énoncé merveilleux sur Jésus. Et la parole a été faite chair. Hein? On voit au chapitre 1, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc, cette parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons, Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la gloire de Jésus, une gloire comme le Fils unique venu du Père. Jean était un témoin aux premières loges de la gloire de Jésus et il a cru. Ce matin, bien frères et sœurs, découvrons non seulement la gloire de Jésus, dans le but de croire en lui. Hein? Si vous n'avez pas encore cru en Jésus, bien ce matin, je prie que le Seigneur vous montre qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Pour que vous puissiez devenir ses enfants. Et par la suite, bien, comme j'ai dit, on va prendre le repas du Seigneur, bien, on va découvrir la gloire de Jésus et puis on va la célébrer. Prions. Hein, Seigneur, merci pour ce temps ce matin, ce temps de l'année aussi. On se réjouit, Seigneur, qu'on est rendu le 2 mars. Et Seigneur, oui, c'est vrai, on a hâte là, que les journées réchauffent, que le beau temps revienne tranquillement. Alors, Seigneur, on te bénit pour ça. Tu es le Créateur, tu es le Dieu de l'univers. Et nos cœurs se tournent vers toi, Père Céleste, parce que seul toi peux nous désaltérer notre âme. Et Seigneur, encore, on compte sur la présence de ton esprit pour nous aider à saisir, à comprendre ta parole. À voir la gloire de Jésus ce matin, pour que si, Seigneur, quelque part, bien, on n'a pas encore cru en lui, bien, que tu touches le cœur, Seigneur, de toute personne qui ne te connaît pas. Et pour ceux qui te connaissent, bien, Seigneur, oui, redécouvrir cette gloire de Jésus et pouvoir la célébrer ce matin. Alors, Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie, on te bénit. Et on te dit merci au nom de Jésus. Amen. Donc, versets 1 et 2 de Jean, chapitre 2. Donc, ça dit, Jean nous dit, « Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. » Vous savez, quand je dis ça, en tout cas, je trouve ça tellement beau que ça commence comme ça. Hein? C'est-tu beau des noces? On aime tout ça être là. Hein? Toute la dynamique de ça, toute la, c'est vraiment intéressant, c'est beau. Et Jésus commence, Jean, il commence avec un mariage, puis je pense que pour moi, il n'aurait pas pu commencer avec quelque chose de meilleur. Un mariage. Donc, on pourrait dire que la présence de Marie et de Jésus à ce mariage nous indique qu'il devait s'agir possiblement d'un mariage d'un proche parent, possiblement, ou du moins d'une connaissance de la famille. Et Jésus, qui a institué le mariage, bien, juge bon, dans son agenda, de prendre le temps nécessaire pour célébrer. Hein, je ne sais pas si vous avez des fois les images de Dieu, tout ça, là, dans le passé. Hein, un Dieu austère, un Dieu là, qui est difficile. Pourtant, Jésus, il était là. Il ne s'est pas assis d'un coin. Il a participé à la noce. Il a célébré. Hein? Quel beau message pour nous. Et pour nous aider à comprendre, frères et sœurs, bien, laissez-moi vous dire quelques mots au sujet du contexte de ce récit, en fait. Parce que quand on regarde la parole de Dieu dans son ensemble, bien, on réalise que Jésus est venu, en fait, inaugurer une ère nouvelle. Parce qu'anciennement, on était sur l'Ancienne Alliance. Hein, quand on lit, quand on prend notre Bible, hein, on a l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, puis on a le Nouveau Testament. Il est venu commencer cette nouvelle ère-là, une ère nouvelle, établir une alliance plus excellente que l'ancienne, et cela est souligné dans l'Évangile de Jean, particulièrement dans le chapitre 2, dans ce qu'on vient de lire, chapitre 3 et 4. Par exemple, dans ce récit, on va le voir tantôt, bien, on voit qu'il y avait 6 cruches qui ont été consacrées, qui étaient consacrées au rite des Juifs pour la purification. Mais désormais, sont consacrés par Jésus au vin nouveau et délicieux. On pourrait dire du royaume, de cette ère à venir. Donc, un symbole, bien sûr, de purification, mais aussi de joie et d'abondance. Moi, je suis content d'être joint à ça. Un royaume où il y a de la joie et de l'abondance. Dans Jean, chapitre 2, ça, on a lu 1 à 12, au verset 12 jusqu'à 22, Jésus parle du vieux temple à Jérusalem. Qu'est-ce qui va arriver? Il va être remplacé par un temple qui n'est plus ni moins que le Christ ressuscité venant établir sa demeure dans le cœur des humains. C'est une nouvelle ère, ça. Dans Jean 2, à partir du verset 23 jusqu'à Jean 3, 36, Dieu invite Nicodème, hein? On connaît Nicodème, et tous les humains à quoi expérimenter une nouvelle naissance, on va voir ça, afin de devenir de nouvelles créatures et de pouvoir participer à cette nouvelle création. Et plus loin, dans le chapitre 4, l'eau du puits de Jacob est remplacée par une eau vive apportée par le Seigneur lui-même. Hein, c'est la Samaritaine là, qui est au puits. Et finalement, bien, dans Jean, toujours chapitre 4, dans les versets 20 à 29, Jésus parle justement avec la Samaritaine du culte rendu à Jérusalem et celui rendu au mont Garizim sont remplacés par un nouveau culte rendu à Dieu en esprit et vérité. Il est en train de tout venir changer ça et apporter ces choses. Et il commence ça par un mariage. Hein, vous reconnaissez peut-être des personnes. Où est Charlie, là-dedans? Non, c'est pas vrai. Mais, hein, c'est le mariage de notre garçon Étienne, avec Jessica. Et puis, je mets la photo de ça parce que Jésus a assisté à un mariage, lui, ici. Puis c'est ça, bien, quoi de mieux que de célébrer, d'inaugurer cette nouvelle ère par un mariage, par de la célébration. Et, bon, le 9 août prochain, bien, un de mes neveux va se marier, garçon de mon frère Normand. Puis, je veux dire, ce qui est merveilleux, ça va être une occasion où ce que, c'est ça, ça fait 9 ans où ce qu'on n'a pas été tous les trois et les familles réunies ensemble, avec les neveux, les nièces. Ouais, nos trois frères avec femmes, enfants, petits-enfants. Donc, le 9 août, donc une date pour nous, bien, on a hâte. Moi, j'ai hâte. Comme on dit, can't wait. Hein? Jésus, dans cette histoire, frères et sœurs, invite les lecteurs à faire partie de son royaume. Et le fait qu'il se trouve à ses noces, comme j'ai dit, nous fait comprendre qu'il n'était pas comme, hein, quand on lit la parole de Dieu, on voit les chefs religieux, hein, c'était très austère, ascétique, qui imposait une vie sans joie, triste, t'es pogné. Jésus est l'auteur de la joie. Merci Seigneur. Il nous invite maintenant à vivre pleinement cette joie que Dieu place dans nos cœurs pour, par son esprit, d'appartenir à lui comme ses enfants bien-aimés. Et ce matin, bien, c'est sûr, on peut vivre des expériences ou des situations difficiles. On en vit tous. Mais dans notre cœur, profondément, on a cette joie-là. Parce qu'on appartient à Dieu. Et on peut expérimenter cette joie-là ce matin. Et puis, frères et sœurs, bien, puisez un peu dans votre cœur. Allez voir cette joie-là. Hein? Elle est présente. Et on veut la vivre ce matin, cette joie que Dieu place dans notre cœur. Donc, Jésus, bien, se rend à ce mariage. Et au verset 3-4, ça dit, « Le vin ayant manqué, bien sûr, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Voilà des propos. On pourrait dire de Jésus, peut-être, là, ça pourrait nous provoquer un peu des grincements de dents. Hein? Comment ça se fait qu'il parle à sa mère comme ça? Bien, on va essayer de mieux comprendre. Quand on regarde le texte, tout ça, puis comme je dis, là, je ne suis pas un expert du grec, je me fie à des gens qui connaissent ça. Jésus emploie le mot « femme », mais en l'utilisant, ça dit qu'il n'est pas impoli. Il aurait pu dire ça. Il a dit « femme ». Mais on va le voir pourquoi il a dit « femme », OK? Mais c'est toujours sa mère. Jésus a toujours gardé un grand respect pour sa mère, là. Parce que quand il était sur la croix, il a dit à Jean, gars, tu vas prendre soin. Il a toujours eu un grand respect, Jésus. Il ne manque pas de respect ici, mais il ne dit pas maman, il dit femme. Pourquoi? Bien, on regarde ça. Donc, il n'est pas impoli, mais il la tient une certaine distance. Le mot un peu nous amène à ça, le contexte nous amène à ça. On pourrait dire ses propos semblent brusques. Non seulement parce qu'il répond à sa mère en l'appelant femme, mais également parce qu'il ajoute « Qu'y a-t-il entre toi et moi? » Cette expression a le sens de « Pourquoi, en fait, te mêles-tu de mes affaires? » En quoi cela te regarde-t-il? Et l'expression, on voit, il dit « Mon heure n'est pas encore venue », bien, c'est une expression qui fait référence à ses souffrances sur la croix. Puis Jean, il l'utilise à 5 reprises, puis à chaque fois, ça fait référence à ça. On pourrait dire encore une fois, bien, Jean plus tard nous donne la réponse dans son évangile, bien, dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » La volonté de qui? De son Père. Qui est dans les cieux. Parce que son père terrestre, ben, on ne le voit pas dans l'histoire, on présume qu'il était mort. Il parle de son père. Hein? Ma nourriture, c'est de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre. Dans Jean 6, 38, bien, qu'est-ce que ça dit? Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté en plus, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, on voit ici que Jésus en train de dire, bien, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et le ministère de Jésus, ce que ça nous montre aussi, ce n'était pas un ministère humain, c'était un ministère divin. Et on pourrait dire, c'est ça qui donne non seulement tout son sens à son ministère, mais également toute sa valeur et toute sa puissance. Parce que ça ne venait pas de lui, ce n'est pas humain, c'est divin. Non par manque de respect envers sa mère, mais pour démontrer non seulement à sa mère, à ses frères et sœurs, mais on pourrait dire à également toute personne qui était là, puis pour nous aussi qui lisons ça, bien, que sa famille physique n'avait aucune influence dans sa mission divine, tant dans son déroulement que dans ses bienfaits possibles. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas sa mère, mais ce n'est pas sa mère qui lui dictait quoi faire par rapport au plan. C'est à son père, dans les cieux. Donc, il ne manque pas de respect envers sa mère, un grand respect envers sa mère. Donc, vous savez, dans Luc 11, par exemple, je ne l'ai pas là-dessus, Donc, Luc 11, 27 à 28, ça dit, « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix au milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Dans Marc, chapitre 3, versets 30 à 34, Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, « Il est possédé d'un esprit impur. » Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule étant assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Donc, Jésus dénigre pas sa famille ici non plus, là. Parce que Jésus est venu pour une raison, une mission divine. Il est venu nous sauver. Sa mère ne pouvait pas sauver personne. Marie avait besoin d'être sauvée, elle aussi. Les gens pensaient qu'il y avait un avantage spirituel d'être la mère ou la famille de Jésus. Hein, c'est le danger des fois. Hein? Parce qu'on fait partie d'une famille, ou bien, ça peut sûrement nous donner des avantages. Puis ici, bien, je tiens à souligner, dans ça, profitez de vos familles. Parce que la famille, elle a sa place aussi. Hein? Chérissons nos familles. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de l'œuvre de Jésus venu sur la terre. Donc, les gens pensaient qu'il y avait un avantage. Le salut est nécessaire pour tous, incluant toute la famille de Jésus, que ce soit ses frères, sœurs, sa mère. Elle avait besoin, elle aussi, d'un sauveur. Spirituellement, l'avantage est dans la foi, pas dans la famille. On a à se tourner vers Jésus dans la foi, dans qui il est, dans ce qu'il a accompli pour moi. On va regarder ça tantôt. Et je dirais ce matin, bien, c'est une bonne nouvelle que ça soit comme ça. Vous n'êtes pas d'accord? Hein? Si on dépendrait, là, bien, je ne fais pas partie de cette famille-là, c'est sûr, je n'ai pas d'avantage. C'est juste les autres qui en profitent. Mais non, mais en Jésus, ça ne marche pas comme ça. Quelle que soit ta famille ce matin, hein, on vient tous d'une famille, puis comme je dis, nos familles sont importantes. Mais c'est vrai, des fois, on a des problèmes avec nos familles. Là, je ne parle pas de ça. Je parle de la famille dans l'ensemble. Hein, Dieu établit la famille, c'est important. On doit s'en occuper. Mais quelle que soit ta famille ce matin, quels que soient même tes parents, et pourquoi pas ton église aussi. Hein? On peut être d'une église en pensant que parce que je viens dans une église, là, ben Dieu m'accorde sa faveur. Non, ça ne marche pas comme ça. La faveur vient de se tourner, de croire que Jésus est mort à ma place à la croix. C'est ça l'avantage. Donc, cela ne peut t'empêcher justement d'obtenir la faveur de Jésus. Il n'y a rien qui t'empêche. Il n'est pas influencé par aucun humain. C'est la foi en lui qui nous unit à lui. Merci Seigneur. Hein? C'est la foi en lui qui nous unit à lui. Donc un peu dans ce contexte-là avec sa mère, c'est un peu ça qu'on peut regarder et dire ce matin, peut-être d'autres choses à dire, mais bon, on va continuer. Par la suite, bien... On revient dans Jean, à partir du verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait des vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en portèrent. « On pourrait se demander pourquoi Jésus a-t-il choisi des vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et non des vases destinés à la consommation de l'eau? Parce qu'il aurait pu prendre ça aussi, là. Hein, comme je disais, il est venu instituer une nouvelle ère. Il est venu changer des choses. Jésus était en mission divine, comme j'ai mentionné, et le point culminant de sa mission allait être sa mort à la croix. Sa mort à la croix. Il allait être celui qui purifie complètement et parfaitement tout être humain. Tous nos péchés peuvent être pardonnés par le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Donc, on peut être complètement purifié. En changeant l'eau en vin, en faisant ce miracle, il voulait indiquer vers quoi il allait. Hein, on pouvait, là, un peu, là, en regardant ça, dire, « Oh, OK, je comprends, là, c'est sûr, nous autres, en lisant tout, on est capable de comprendre. » Mais déjà, il est en train de montrer vers quoi il allait dans sa mission. Vers quoi son heure aussi, quand cette heure-là allait arriver. Hein? C'est pour ça qu'il dit, « Mon heure n'est pas arrivée. » Ce n'est pas aujourd'hui là, que je vais accomplir là, pourquoi je suis venu, mais c'est commencé, c'est débuté. Il est en train de montrer que lorsque son heure sera arrivée, il prendra les rituels de purification des Juifs et les remplacera par une manière irrévocable de purification. Et la vraie purification ne se fera plus par de l'eau. Dans ces circonstances-là, là, c'est sûr, bon, on voit qu'à un moment donné, les scribes puis tout ça, là, tous ces gens-là, un peu qui disaient à Jésus, hey, pourquoi là, tes disciples ne se lavent pas les mains? Là? Bien, ça servait à ça. Là. Avant de manger, il faut se laver les mains. Puis là, bien, Jésus leur a répondu, c'est pas ce qu'on met dans sa bouche là, qui nous souille, c'est ce qui sort de l'intérieur de notre cœur. C'est ça qui souille les gens. Donc, cette vraie purification se fera par son sang. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux débute au chapitre 1 par ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. La mission de Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, hein, il est en train de dire que Jésus est Dieu, là. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hein? Ben oui, amen. A fait la purification. Hein, c'est passé, là, a fait. Mais son action passée, aujourd'hui encore, elle est valide. Et Jésus nous invite à se tourner vers lui pour que nos péchés soient pardonnés. La gloire de Jésus est que lui seul, et une fois pour toutes, a fait la purification des péchés. C'est accompli, mais c'est disponible aujourd'hui. Les rituels de purification de l'ancienne alliance ne sont plus nécessaires. Ce qui est nécessaire, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qu'on a besoin. Son œuvre. Pour chacun de nous personnellement. On dit que chaque vase de purification contenait 2 à 3 mesures, soit l'équivalent de 80 litres environ. 80 fois 6, 480. C'était une quantité énorme. Puis, quand on regarde ça, bien encore là, hein, cette ère nouvelle nous parle de l'abondance. Hein, tantôt, on a parlé de joie, d'abondance. Hein, Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Pas nécessairement parce qu'on a plus d'argent dans nos poches, là. La vie abondante de paix intérieure. Mais il nous bénit aussi, là. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous bénit pas matériellement. Des fois, les gens s'arrêtent, on s'arrête là-dessus, là. Hein? Dieu va te bénir, la vie en abondance, c'est un gros char d'une grosse maison, puis ça. Tant mieux si tu peux avoir ça. C'est la vie intérieure, premièrement. D'être racheté, hein? D'être pardonné de nos péchés. De savoir que Dieu vit en nous, puis on a cette vie-là avec lui. Puis cette vie-là va se poursuivre dans l'éternité. Donc, c'est une quantité énorme révélant l'abondance. Et on voit que dans l'histoire, bien par la suite, ils n'ont pas manqué de vin, là. Hein? On ne voit pas que Marie est revenue encore, dire « Ouais, tu aurais dû en faire plus. » Ils ont dû en avoir plus. Ils en ont eu assez pour finir. Donc, frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ ne viendra jamais à manquer. Hein? Dans le sens que ce sang qui a coulé, là, aujourd'hui, est encore disponible. Il ne sera jamais remplacé. Ben là, on n'arrivera pas dans X jours à un moment donné. Ah, ben là, Jésus a fait ça, mais là, aujourd'hui, c'est plus bon, c'est d'autres choses. Non, c'est valide aujourd'hui. Éternellement. Hein? Il a obtenu un sacerdoce éternel. Donc, rendu au verset 9 à 12. Hein? « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté à l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, mais... puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Et tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Si on regarde juste un petit peu plus loin, bien, Jean de l'Espérance nous dit ceci. Ben, en fait, il parle de la supériorité de Jésus de cette façon. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Vous m'êtes mes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Hein? Il faut que Jésus prenne la place maintenant. Moi, je suis juste venu pour introduire. Il est là. Hein? Puis il parle dans un terme d'époux. C'est beau. La dernière chose que Jean le Baptiste dit de Jésus dans cet évangile est que Jésus est l'époux, qui a l'épouse. Puis bon, on pourrait dire l'épouse à ce moment-là, ce serait qui? Ce serait ses disciples, potentiellement, qui étaient là avec lui. Et dans ce premier miracle de Jésus, bien, il accomplit ce que l'époux dans l'histoire n'a pas été capable de faire. Hein? Il a manqué. Il a raté quelque chose, là. Mais je ne condamne pas l'époux, là. Car dans Jean 2, on voit que c'est le mari, dans le fond, qui était responsable de l'approvisionnement du vin parce que le gars, il est allé le voir. Hein? Il n'a pas été voir l'épouse à venir ou bien il n'a pas été voir Marie, il est allé voir l'époux parce que c'est lui qui devait organiser. Et c'est lui, en fait, qui avait la responsabilité là, de tout organiser ça puis de s'assurer aussi qu'il manque de rien. Pas juste du vin, nourriture, ainsi de suite. Donc, l'époux, dans l'histoire, n'a pas été capable de faire ça. Puis c'est drôle parce qu'il dit, ben tout homme sert d'abord le bon vin, puis après ça, ben tu sais, on garde le moins bon parce que les gens peuvent s'en rendre moins compte. Hein? Puis possiblement, c'est ça qui devait arriver. Puis lui, il a dit, c'est ça. Mais toi, tu as gardé le bon vin, écoute. Mais on se rend compte, c'est pas, dans le fond, ce que l'époux a fait, là. Il n'a pas fait ça, lui. On a manqué de vin et il n'a pas gardé le meilleur pour la fin. Et on dit qu'à l'époque, bien, les noces, comme je disais, duraient aussi longtemps qu'une semaine et la responsabilité reposait sur l'épaule de l'époux. Manquer de vivre ou de vin était quelque chose d'inacceptable et de honteux dans une société. Il ne fallait absolument pas perdre la face. Hein? Si tu veux perdre la face, là, manque de vin au mariage. Là, on est piteux, hein? On serait piteux, on comprend. Et on dit que certains documents nous apprennent que la belle famille pouvait même poursuivre en cours un nouveau marié. On fête, après ça, on t'amène à cour. Parce qu'il n'avait pas rempli ses obligations. C'est sûr que ça part mal. Mais vous savez un peu, quand je regarde ça, moi, ce qui m'encourage, hein, on pourrait dire, bien, c'est vrai, hein, tous les époux, nous sommes parfaits. Hein? Brian, merci que tu dises amen. Hein? Hein, malheureusement, tous les époux échouent d'une manière ou d'une autre. Malheureusement. Pas souvent. Non, c'est pas vrai. Je pensais que quelqu'un rirait, mais bon. C'est ça. Hein? Il faut toujours penser que des fois, on réussit, on ne rate pas toujours nos coups, notre coup. Là. Des fois, on l'a. Puis on espère l'avoir réussir de plus en plus souvent, mais on rate notre coup encore, puis on va le rater encore. Mais Jésus, ici, on voit qu'il est l'époux parfait. Hein? Il est l'époux parfait. Et en changeant l'eau en vin, ici, on voit aussi que Jésus, quoi, exerce la compassion et sort l'époux de l'embarras. Ben non, il ne savait pas. Ben, les poules savaient, là, ils ont manqué de vin, mais tu sais, personne ne le sut. Jésus l'a sorti de l'embarras. Il est venu à sa rescousse. Puis Jésus, en tant qu'époux parfait, ben c'est quoi qu'il a fait pour nous? Il est venu à notre rescousse aussi. Parce qu'on était dans le trouble. Jésus est l'époux parfait, puis ben, il dit qu'il est l'époux aussi dans la parole de Dieu, on voit ça. Puis que l'Église, bien, les rachetés, les gens qui ont cru en lui, bien, c'est l'épouse. Jésus est l'époux parfait. Et on le voit ici d'une certaine façon, quand on regarde un petit peu à travers les lignes. Donc, il sort l'époux de l'embarras. Donc, ça dit, « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire. » Et ses disciples crurent en lui. Hein? On voit que Jean dit qu'il en a fait bien d'autres miracles, mais ils ne sont pas tous enregistrés. Mais ceux que voulait que Dieu qu'on connaisse, bien, il nous a le fait connaître. Puis vous savez, bien, des fois, nous, on s'arrête des fois beaucoup sur... C'est vrai que c'est exceptionnel, un miracle. Hein? Où on voit quelque chose, là, puis waouh, c'est, on est surpris même, on ne voit pas ça souvent, puis c'est merveilleux. Mais le danger, c'est quoi des fois? C'est qu'on met plus l'emphase sur le miracle, sur celui qui le fait. Hein? Puis l'intention pour laquelle il le fait. Donc Jésus n'a pas voulu épater la galerie, dire « Regardez comment je suis bon. » Mais en même temps, c'est sûr qu'il révélait sa personne à travers ça. Donc ce matin, un peu, bien c'est ça. Seigneur, oui, veut qu'on considère ce miracle-là comme exceptionnel. Je veux dire, personne n'est capable de faire ça. On n'a jamais vu ça. Lui, il l'accomplit, puis et combien d'autres aussi. Mais on comprend qu'avec Jean, bien, ce qu'il veut aussi, c'est pas qu'on s'arrête sur le miracle, mais sur la signification, le sens de ce miracle-là. De révéler sa personne en tant que Sauveur, de voir Jésus plein de compassion, un être rempli de joie qui veut notre bien dans l'abondance. Hmm. Donc, ce matin, bien, Jean nous invite à se tourner vers lui, à croire en Jésus. Parce que, gars, c'est vrai que des fois, on pourrait dire, ben moi, je le connais, Jésus, là. Oui. Comme je connais Nick Suzuki, là. Hein? Je sais qui, mais est-ce que je le connais vraiment? Hein? Qu'est-ce que je dirais de plus que sur lui? Je ne dirais pas grand-chose. Mais Jésus, c'est ça, il ne veut pas juste qu'on sache qui qu'il est. Il veut qu'on s'attarde à sa raison de sa venue. Puis qu'on se tourne vers lui de voir que, dans le fond, il est venu nous sauver. Il est venu à notre rescousse, un peu comme Jésus est venu à la rescousse de cet homme qui a manqué de vin. Jésus rempli de compassion pour nous parce qu'il veut quoi? Il veut une relation avec lui. Il veut qu'on ait une relation. Malheureusement, le péché nous sépare de lui. Mais lui, il a réglé ça en prenant notre place à la croix, en subissant le jugement que méritaient nos fautes. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, quelqu'un qui a mis sa confiance, qui a reconnu ses fautes, qui a demandé pardon à Dieu, bien, que Dieu nous accepte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour tout ça. On est libre maintenant. Et Jésus, ce matin, bien, nous invite à se tourner vers lui. Si on ne le connaît pas, il nous invite à croire en lui pour être sauvé, être pardonné de nos fautes. Et si on le connaît, bien, il nous invite encore à croire en lui, pas pour notre salut, mais à croire en lui aujourd'hui encore parce qu'on a tellement besoin de lui. Donc, Robert, je pense que tu avais... Tu veux-tu qu'on fasse des chants ou on va faire le repas? OK, parfait. Donc, est-ce que qui veut passer, Irénée, je sais que tu passes d'habitude le pain et le vin. Est-ce qu'il y a une autre personne que tu veux prendre?